Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur ce nouveau direct de Famille, justice, enfance sur RLP depuis Coulommiers-Chamiers dans la banlieue de Périgueux. Un nouveau direct dans l'émission d'études de la famille contemporaine occidentale avec aujourd'hui un magistrat. Un magistrat de carrière, aujourd'hui avocat. C'est le troisième que nous réussissons à avoir. Ce sont des gens dont la parole est rare parce qu'ils ont très souvent un devoir de réserve qu'on peut comprendre. C'est Maître Domergue, Maître Georges Domergue, qui a été juge, qui a été procureur à Bordeaux, en Corse, qui aujourd'hui est avocat, qui a fait sa carrière donc dans la magistrature et qui est également membre de Michael Justice, hein, dont on vous parle depuis quelques émissions. Maître Domergue, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu. Est-ce que, pour compléter un peu cette présentation succincte, vous pourriez nous dire un petit peu quel a été votre parcours? Déjà, la magistrature en 1985. Pourquoi la magistrature? Pourquoi l'ENM?
Bien parce que j'ai, disons, accroché à mes études de droit. Mmh. J'ai eu envie d'en faire mon métier et il m'a semblé que la manière la plus complète, la plus sereine, peut-être aussi un peu la plus confortable, était de la carrière de magistrat. Mmh. Confortable en ce sens que on peut aller jusqu'au bout, exprimer, disons, c'est sa conception ou ses conceptions de la justice. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui nous évite un certain nombre de frustrations que je connais un peu plus depuis que récemment j'ai embrassé la profession d'avocat.
Oui, parce que vous avez effectivement maintenant un aperçu sur plusieurs dimensions de ce domaine. Hein. C'est une discussion qu'on a souvent avec les personnes qui gravitent autour de ceci, c'est qu'il y a toujours plusieurs angles de vue, plusieurs points de vue dans toutes les problématiques. Mais bon, regardons rapidement ce que c'est une carrière de magistrat. Le LM en 85, vous sortez, quels sont les premiers postes que vous faites?
Le premier poste que j'occupe, c'est celui finalement qui m'avait conduit principalement à entrer dans la magistrature, c'était le poste de juge d'instruction.
D'accord.
Il y avait déjà un mythe un petit peu du juge d'instruction, ses pouvoirs, de sa participation dans une position privilégiée à des enquêtes criminelles. Mm-hmm. Et mêler la réalité sociale, les drames humains à leur solution juridique, c'est quelque chose qui m'intéressait.
Juste pour savoir, est-ce que dans l'ENM, il y a des formations, des branches? Est-ce que, par exemple, on est formé à être juge aux affaires familiales? Est-ce qu'on est formé à être juge des enfants? Oui. Est-ce qu'on est formé à être juge de correctionnel? Est-ce qu'on est formé à être juge du commerce? Ou est-ce que vraiment, on fait... c'est généraliste et après, c'est la carrière qui décide?
Bon, la formation des magistrats a évolué, connaître les dernières la toute dernière organisation en ce domaine, mais globalement on sait qu'on maintient une formation d'abord générale du magistrat. Il s'agit pour lui d'être capable d'embrasser au fur et à mesure de sa carrière un peu toutes les fonctions, mais il y a une deuxième partie qui conduit tout de même à spécialiser un peu plus le magistrat en fonction du poste qu'il va occuper dans l'immédiat, à la sortie de l'école. D'accord. Donc à ce moment-là, les futurs magistrats se répartissent dans les formations, effectivement, plus pénales, soit de juge d'instruction, soit de magistrat du parquet, soit plus civiliste, magistrat de tribunal d'instance, de tribunal on appelait de grande instance, qu'on appelle aujourd'hui tribunal judiciaire. Donc effectivement, il y a des embranchements. Mais très vite, on peut changer d'orientation et un civiliste peut devenir un pénaliste et inversement. La carrière est longue, souvent autour de 40 ans, et on a la possibilité d'exercer des conditions tout à fait différentes. Il y a autre chose aussi, il y a les postes de rédacteur au ministère de la Justice ou dans d'autres ministères, on participe au travail sur le droit et la loi.
D'accord.
Et, effectivement, les magistrats sont souvent considérés comme des personnes pouvant occuper avec utilité ces postes, des détachements, des positions, et puis des carrières aussi beaucoup plus très différentes à l'international, dans des postes quasi diplomatiques, dans des ambassades. La carrière de magistrat est potentiellement très, très variée.
Juste pour savoir, est-ce que vous-même, est-ce que vous avez été JAF ou JDE ? Est-ce que vous avez pratiqué ces postes-là ?
Alors, il y a les fonctions qu'on occupe de manière habituelle, et puis il y a les périodes dites de vacation, de congé, mm-hmm. où on est amené à remplacer des collègues. Quand j'étais juge d'instruction, il m'est arrivé de remplacer le juge des enfants et de présider un tribunal pour enfants en matière criminelle, par exemple.
D'accord.
Et bon, parce que on avait besoin de remplacer le juge titulaire. Donc, pour ma part, j'ai justement occupé des postes dans des domaines très, très, très variés, mais quand même essentiellement de pénaliste. D'accord. Là, j'ai connu un peu toutes les fonctions et tous les regards qu'on peut avoir sur le droit criminel, c'est-à-dire de procureur, de juge d'instruction, comme je l'ai dit, et aussi d'assesseur ou de président de formation pénale, aussi bien tribunal correctionnel, chambre correctionnelle, de cour d'appel que cour d'assises, en l'occurrence, pendant quand même 10 ans, 5 ans de manière ponctuelle et 5 ans à temps plein, voilà, où je passais pratiquement tout mon temps soit à préparer un dossier criminel, soit à présider des audiences criminelles.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
De l'intérieur, j'ai eu plusieurs fois des échos, des personnes qui m'ont indiqué que les affectations des différents rôles dans les tribunaux au niveau ressources humaines s'effectuaient en début d'année et que les gens qui allaient faire juge aux affaires familiales ou qui allait faire juge des enfants n'avait pas forcément de formation spécifique pour cela, que ce n'était pas forcément les postes les plus demandés et donc ce n'était pas forcément les personnes les plus professionnalisées dans le secteur de la famille qui s'y retrouvaient. Vous, de l'intérieur, vous avez cette impression-là ou vous avez eu l'impression que les gens qui allaient faire la gestion des familles étaient vraiment des professionnels formés et performants ?
Alors, il y a les formations initiales, donc dès l'école de la magistrature et ensuite parce qu'il y a une formation continue obligatoire, mais il y a également une formation qui se déroule potentiellement sur le terrain, c'est-à-dire que quand on aborde une fonction, au bout d'un certain temps, on en devient un spécialiste.
Bien sûr.
C'est la pratique qui vous conduit à rassembler
des jurisprudences. C'est une notion d'habitude, après, qui se met en place. Voilà. On a l'habitude de faire ainsi.
Il y a des fonctions très spécialisées.
Oui.
Qui ne s'improvise pas ou on ne décide pas effectivement en début d'année, hein, c'est-à-dire que vous faites référence à l'Assemblée générale des magistrats où on établit des ordonnances de roulement. Alors ça peut être d'ailleurs également en cours d'année, mais c'est au début de l'année civile. Donc là, on ne va pas changer la spécialité, on ne va pas faire d'un juge d'instruction un juge aux affaires familiales parce qu'il est nommé par décret comme cela.
D'accord.
Donc on ne peut pas changer cette affectation de même pour un juge de l'application des peines, pour diverses fonctions. Et puis il y a tout le reste au sein du tribunal avec des fonctions qui sont très nombreuses, très diverses. Et là, effectivement, il peut arriver que quelqu'un se retrouve affecté pour l'intérêt du service dans une fonction qu'il n'avait pas forcément envisagé.
D'accord. Donc, dernière petite question, après on changera de thème, et c'est juste pour creuser ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qui souvent est effectif sur le terrain. Par exemple, nous, à Périgueux, on a une nouvelle JDE, elle a été nommée en tant que juge d'exécution des peines. Puis on voit des personnes qui n'ont pas forcément eu une expérience, qui ne sont pas parents, qui n'ont pas de formation, et qui vont après s'occuper des familles. C'est un cas particulier, ou vous avez pu observer ça, vous ?
Je ne sais pas si est lié à une spécialisation, à une préparation personnelle, dans sa vie personnelle même, à une fonction. Je crois que en réalité, ce qu'on attend d'un juge, ce sont des qualités humaines qui lui permettent d'appréhender des situations extrêmement différentes, avec une ouverture d'esprit et un mélange constamment d'humanité et de références juridiques. L'humanité, elle s'accompagne forcément de beaucoup de subjectivité. Il faut arriver à comprendre les ressorts des personnes, aussi bien en matière de divorce qu'en matière de placement d'enfants ou en tout autre domaine. Mais il faut constamment faire le lien avec le cadre juridique qui exprime D'accord. un certain état de la société, okay. des règles. Et c'est ce balancement continu qui fait le bon magistrat et finalement qu'on l'affecte à une fonction ou une autre, normalement, on doit retrouver ou ne pas retrouver ses qualités.
D'accord. On y reviendra par la suite, mais c'est une réponse déjà sur le fond qui est très intéressante.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dites-moi, vous qui avez 40-45 ans d'expérience, est-ce que vous avez vu une évolution de la justice en France, de la façon de travailler qu'est-ce qui a changé depuis vos jeunes années jusqu'à aujourd'hui? Je sais que vous êtes parfois assez critique, que vous militez pour certaines refontes, mais comment est-ce que tout ceci a évolué en 40 ans?
La première évolution, elle semble être due à l'augmentation des contentieux, à un défi technique rencontré par la justice, non seulement en France, mais en réalité dans tous les pays occidentaux. On a une juridicisation de la société, une augmentation donc des contentieux dans des domaines d'ailleurs qui auparavant ne se manifestaient pas. Et il a fallu donc faire face et essayer de trouver des solutions. On a trouvé parfois des solutions un peu technocratiques qui pouvaient même heurter le fondement de la justice. Par exemple, des formations restreintes, du filtrage des recours, par exemple. Il peut paraître choquant que la Cour de cassation, aujourd'hui, décide d'examiner ou de ne pas examiner un certain nombre de pourvois. On est arrivé à une justice qui est forcément sélective et donc injuste.
D'accord. Une augmentation des délais.
Le propre des juridictions, c'est de pouvoir examiner les arguments et de donner des motivations. Or, aujourd'hui, on accepte l'idée qu'on rejette, qu'on n'admette pas des recours, qu'on ne motive pas donc des rejets apporter un certain nombre de recours, par
D'accord.
exemple.
D'accord. Donc, si je résume, vous avez assisté, en fait, à une augmentation du nombre de dossiers par rapport à la population, qui signifie que soit il y a plus de problèmes, soit que les gens se plaignent plus. Et vous avez constaté une réaction de l'institution, en fait, qui consiste à faire des barrages administratifs et artificiels aux accès de la justice pour essayer de les engorger, c'est ça?
Alors, ça, c'est un exemple, le barrage. Mais en matière de poursuite d'enquête pénale, c'est le traitement dit en temps réel qui fait que les magistrats du parquet qui auparavant traitaient des procédures qu'ils avaient devant les yeux, qui pouvaient donc regarder d'une manière complète et approfondie, apportent des solutions à partir de renseignements qui leur sont donnés par téléphone, par les enquêteurs. Ils sont donc extrêmement dépendants du compte-rendu que leur donne les responsables d'une enquête, et ils vont prendre pour autant des décisions très graves en termes de poursuite sur la base de simples comptes rendus. Il y a des orientations qui se font d'une manière probablement trop rapide, et en tout cas qui ne permettent plus aux magistrats du parquet d'assurer le contrôle approfondi qu'ils effectuaient auparavant. Donc ça, c'est une baisse également de qualité.
Alors, cette baisse de qualité se retrouve dans les sondages auprès de la population, qui ne sont pas forcément extrêmement bons. Comment se fait-il que la population française, surtout celle qui a été confrontée à l'institution judiciaire, en ait une aussi mauvaise image, alors que lorsqu'on creuse, il y a quand même dedans énormément de gens très dévoués et très brillants? D'où vient cette contradiction?
Alors, effectivement, il y a une contradiction entre la qualité intrinsèque de beaucoup de magistrats et finalement ce qu'offre le système. C'est-à-dire que c'est logiquement l'organisation qui abaisse finalement le niveau moyen de chacun. C'est-à-dire en quelque sorte les juges sont moins bons qu'ils pourraient l'être à cause du système dans lequel ils évoluent. C'est ce que je pense. Le propre de la procédure, c'est pourtant le contraire. C'est que à partir d'une situation confuse, on va arriver à sortir une vérité et un équilibre dans une décision prise par un juge. Aujourd'hui, le système ne permet pas de produire les décisions judiciaires, non seulement en qualité, mais en délai. Parce que ça, au moins, c'est un élément tout à fait objectif, incontestable. La justice est lente, très lente, de plus en plus lente. Oui. J'ai pu observer, par exemple, les délais moyens d'instruction, d'un juge d'instruction. C'est assez sidérant. On est passé d'un juge d'instruction qui faisait tout, sans même de police judiciaire, au tout début, quand il est créé en 1810, l'instruction durait en moyenne un mois. Et une décision était prise à l'issue. À l'époque du rapport Marie-Laure Rassa, par exemple, en 1994, je crois, on avait évalué à 9 mois la durée moyenne d'une instruction. Et depuis, pratiquement chaque année, on ajoute 1, 2, 3 mois de délai supplémentaire.
Oui.
Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 4 ans de délai moyen. Or, le temps est un élément fondamental dans la justice.
Absolument.
Le rôle de la justice, c'est de mettre fin à un désordre.
Et à des injustices.
Un désordre de la justice.
Oui, et bien le rôle de la justice, c'est aussi...
Le rôle des juges, c'est de prendre en main un désordre qui s'est instauré. Quand je parle de désordre, ce n'est pas le désordre au sens de l'ordre public,
mais oui, je comprends bien.
Tel qu'on l'entend habituellement, mais c'est un désordre par rapport à nos valeurs.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les choses doivent, dans une société bien faite, avec un certain nombre de valeurs, se passer de telle ou telle façon, globalement.
Oui, tout à fait. Lutter et contre les injustices, pour la cohésion générale, bien
on
sûr.
On remet à la justice, on remet à un juge une situation de crise. Mmh. Ça peut être simplement, et c'est le plus souvent d'ordre civil, à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur, etc. Et puis, parfois et souvent, ça prend la forme d'une rupture entre un individu et la société. Et là, ça intéresse le droit pénal. Voilà. Donc, cet ordre, il était assez bien rendu. Il doit revenir le plus vite possible. C'est ce qui se passait dans le passé. Aujourd'hui, le fait qu'une situation contraire au droit, à l'équité, à la morale, soit sans solution pendant des années et des années, avec des contentieux d'une durée gigantesque, eh bien, ce n'est pas du tout satisfaisant. La justice ne remplit pas son rôle.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est très intéressant de voir que vous, de l'intérieur, vous avez le même avis que nombre d'observateurs. La première question, extrêmement rapidement, comment on peut faire pour améliorer ça?
Eh bien, il faudrait réformer. Le problème de la justice, c'est qu'elle se plaint constamment d'être surchargée, d'avoir trop de dossiers, trop d'affaires à gérer, et en même temps, elle réclame constamment une compétence plus étendue. Elle gère aujourd'hui, par exemple, énormément de situations familiales au titre des tutelles, au titre de l'assistance éducative, qui ne nécessiteraient pas forcément son intervention. Mais elle jette son dévolu sur une situation, et ce qui prévaut, c'est son réflexe de rechercher le pouvoir. Et je crois que c'est un des plus grands maux que nous rencontrons aujourd'hui, c'est cette recherche constante de la part aussi bien de la magistrature que des magistrats ou de beaucoup de magistrats du pouvoir. Et ça s'exprime de mille façons, et ça s'exprime notamment, malheureusement, et c'est ce qui explique que je sois intéressé par l'action de Michael Justice, par une prise de possession de familles qui pourraient trouver en elles-mêmes des solutions tout à fait satisfaisantes. Mmh. En tout cas, il faut admettre que dans la société, il y a beaucoup de façons de concevoir la vie familiale, l'éducation, et que la justice n'a pas, comme elle le fait aujourd'hui, l'obligation, le devoir d'imposer un certain schéma.
Ah oui.
Et voilà, c'est ce schéma qu'elle veut imposer à tout prix, quitte à retirer des enfants, quitte à prendre des décisions extrêmement graves.
Et là, on arrive sur une autre notion, effectivement, sur laquelle je voulais vous interroger, dans le temps qui nous est imparti. Mais je vais résumer quand même, parce que vous venez de dire là, c'est que, en fait, la justice se mêle de plus en plus du privé et donc s'accapare de plus en plus d'intrusions dans la sphère, alors qu'en même temps, elle a de moins en moins de moyens. Il y a une paupérisation. Hein. Moi, j'ai vu des endroits où il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de stylo. Il faut quand même le dire. Mais ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème d'organisation. Hein, on voit quand même que tout est traité de la même manière, qu'il n'y a pas encore cette transition numérique qui a été faite, mais il y a aussi une intrusion de l'idéologie. Et tout à l'heure, vous avez dit, le rôle du juge, c'est d'être humain, de juger et autres. Mais dites-moi, là, quand on lit Montesquieu, quand on lit les autres, le rôle du juge, c'est pas d'appliquer la volonté du législateur de Paris, là, qui a fait les lois, les textes de loi. Pourquoi, lorsqu'on fait les textes de loi, on essaye autant de les rendre le moins interprétables possible pour qu'ils soient enfin appliqués sur le terrain? D'où ça vient, ça, en fait?
Tout à fait. Et là, et ça, c'est peut-être le deuxième élément majeur de l'évolution de la magistrature, c'est qu'elle a pris conscience du pouvoir qu'elle pouvait exercer dans les années... Alors, en matière pénale, on se souvient certainement des grandes affaires politico-financières dans les années... Ça commence dans les années 70, 80. Et là, tout d'un coup, le juge s'est vu prendre en quelque sorte possession du monde politique, comme une sorte
avec un accès aux médias,
de grand censeur. Il y a une alliance qui s'est formée entre la magistrature, les juges, particulièrement les juges d'instruction et la presse, et donc la magistrature s'est rendue compte aussi du pouvoir médiatique qu'elle pouvait avoir.
Ça intéresse les gens, si vous voulez, très clairement, ça intéresse les gens. Ben oui.
Et oui, ça intéresse les gens parce que on est au cœur des passions déjà. Les passions des hommes, et on lit des romans.
Moi, je veux tout ce qui est juste pour moi, c'est normal, bien sûr. Nous sommes tous comme ça.
Oui. Et si je voulais reprendre un peu méchamment un mot de Sacha Guitry à propos des actrices, je dirais que tous les hommes ont le sens de la justice, comme vous dites. C'est quelque chose d'inné. Tous les hommes ont le sens de la justice, sauf quelques magistrats. Et oui.
Mais pas gentil.
Et oui, malheureusement, c'est ça qui est dangereux, c'est que à travers l'excès de pouvoir, effectivement, de sortir du cadre qui est fixé au juge, parce que, évidemment, aller au-delà parfois de la loi, ou jouer sur le pouvoir d'opportunité qui existe, qui est donné au juge, c'est extrêmement valorisant. Et il y a des exemples, et bien sûr, on ne peut pas donner de nom, mais j'ai quelques exemples personnels en tête d'hommes surtout, ou de femmes, qui ont une idée de leur pouvoir qui me semble un peu inquiétante.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors justement, comment on fait pour remettre le droit dans le droit et non pas dans l'influence politique ou l'idéologie, qui sont, à mon avis, les deux ennemis de la justice avec un grand J?
Oui, il y a une idéologie. Alors, c'est souvent l'idéologie dominante, d'ailleurs, parce que...
Ou la sienne, de sa propre expérience, de ses propres émotions, de ses propres envies. Parfois, on a envie de rendre, de faire se conforter le monde à nos propres opinions. Et donc, on s'éloigne de la volonté du texte et du législateur. Ça existe aussi.
Alors, pour moi, il y a deux remèdes. Il y en a un qui est tout à fait classique, qui est d'ailleurs intimement lié à l'organisation de tout système judiciaire, c'est la publicité. Car de tout temps, on s'est méfié des juges qui pouvaient abuser de leur pouvoir. Nous ne parlons pas des juges corrompus. Il y a un célèbre tableau à Bruges qui montre à quel point on a pu être sévère dans le passé avec des juges corrompus. La corruption, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire financière, dans la magistrature, elle est, je pense,
très
extrêmement
faible.
Rare.
Extrêmement
mais
rare, extrêmement faible.
Mais il y a une autre forme de corruption.
Oui, qui est corruption dans le sens de saleté, d'absence de pureté. Oui.
Oui, pour moi, un juge corrompu, c'est un juge qui prend sa décision autrement qu'en fonction du droit et de l'équité.
Voilà.
Voilà. Et dès lors qu'effectivement, une idéologie où le pouvoir de la magistrature l'emporte sur le souci de la justice elle-même, eh bien, on est dans un... Je prends l'exemple, par exemple, de l'affaire Sarkozy, une des affaires Sarkozy, l'affaire dite Bismuth, vous savez, des écoutes. Voilà. Mm-hmm. À cette occasion, la Cour de... Je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire, ce n'est pas le sujet, mais... Il faut noter qu'à l'occasion de cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, quand même la plus haute instance pénale en France, a rendu une décision qui était spécifique au cas de Nicolas Sarkozy, en ce qui concerne le secret des conversations téléphoniques entre un avocat et son client. Et oui. Des choses qui ont été faites, oui. qui étaient tout à fait contraires au droit oui. au moment où elles étaient faites.
Ça, c'est comme la propagation des éléments d'instruction dans la presse grand public, ou les bruits de couloir en milieu rural qui se passent dans les tribunaux, qui se propagent dans la population. C'est absolument insupportable. C'est comme les cas particuliers. Comment on fait pour que le droit soit appliqué? Il faut être indépendant du politique. Mais en même temps, il faut aussi avoir une autorité qui fasse que les gens marchent droit. Comment on fait pour ça ?
Je parlais de la publicité tout à l'heure, parce que c'est le moyen pour les citoyens de regarder comment la justice est rendue, de la contrôler. Et je pense qu'on ne va pas assez loin à ce niveau-là.
D'accord.
Personnellement, j'avais rédigé pour le cabinet de Dominique Perben un projet de loi sur l'enregistrement audiovisuel des audiences. Et je pense que, et ça a été proposé par d'autres.
Ah, nous voulons filmer les audiences, pas pour les rendre publiques, mais nous voulons les filmer les stocker pour qu'elles soient accessibles plus tard, bien sûr.
Filmer les audiences, c'est avoir un témoin permanent du comportement. Non
voilà, accessible par professionnel sur besoin, bien sûr.
Absolument.
Oui.
Non, il faut que ce soit systématique. Aujourd'hui, on peut filmer... n'importe quoi, tous les jours.
Oui, c'est facile de stocker,
bien sûr. Au quotidien, il est quand même extraordinaire qu'on ne filme pas systématiquement, comme ça se fait dans les juridictions internationales, les procès qui sont tenus.
Tout à fait.
Ça oblige le juge déjà à vérifier,
à rester correct,
à s'assurer de son comportement.
Bien sûr.
Voilà. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, résumée, c'est la question de la responsabilité. Aujourd'hui, on est quand même, malgré ce que prévoit la loi, dans un système... qui consacre largement l'irresponsabilité des juges. Non seulement pécuniaire, parce que jamais l'État n'a demandé aux juges de rendre compte financièrement de ses fautes, mais également, je parle de la responsabilité disciplinaire proprement dite, car les actions des justiciables sont quasiment bloquées systématiquement par le CSM, le Conseil supérieur.
Maître Domergue, vous êtes aussi avocat aujourd'hui, vous plaidez, on vous trouve, je crois, assez facilement sur Internet. Hein, donc Georges Domergue avec un S, Domergue comme le footballeur, pour ceux qui veulent le retrouver. Mais c'est vous, nous vous remercions beaucoup d'être venu nous voir. Et nous nous reparlerons dans quelques semaines, car vous viendrez faire ici, je crois, une étude de cas. À bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Oui. Au revoir monsieur, merci beaucoup.
Bonne soirée, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.